France Inter. Simon Le Baron, le 7-10.
C'est l'une des grandes réformes du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est surtout l'une des plus explosives. Elle concerne plus de 5,5 millions d'agents, un salarié sur 5 en France, et nous tous les usagers des services publics. La réforme de la fonction publique est lancée et le ministre a officiellement présenté les grandes lignes hier de ce texte aux syndicats. Il est avec nous ce matin, Stanislas Guérini, bonjour.
Bonjour.
Auditeur d'Inter, je suis certain que vous aurez beaucoup de questions pour le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Posez-les au 01 45 24 7000 et l'application France Inter. Trois points principaux, Stanislas Guérini, dans cette réforme. Le système de catégorie ABC que vous voulez totalement chambouler. La rémunération au mérite des fonctionnaires et la question du licenciement, ce tabou, dites-vous, que vous voulez lever. Beaucoup de réactions d'ailleurs sur ce dernier sujet ce matin. Deux mots d'ordre pour ce projet de loi. Efficacité et performance. C'est une façon de dire aux fonctionnaires au boulot, vous n'en faites pas assez?
Non, pas du tout. C'est une façon de mieux rémunérer, mieux récompenser l'engagement des 5,7 millions d'agents publics qui, sur le terrain, font vivre nos services publics. Et vous l'avez dit, c'est un sujet qui nous concerne tous, parce que derrière la fonction publique, il y a les services publics. Et donc, il y a cette singularité de la fonction publique que moi, je veux défendre. Je le dis d'emblée, la fonction publique, ça n'est pas une entreprise privée. C'est un statut de la fonction publique. Je pense qu'il faut d'ailleurs préserver. Ce sont pour les agents publics des droits et des devoirs. Des droits, l'égalité d'accès aux emplois, la protection contre toutes les formes d'arbitraire, contre celles du politique. Des devoirs, l'adaptabilité, la neutralité, la probité, le service au public. Et je crois que ça, c'est le cœur du statut de la fonction publique qu'il faut réaffirmer et qu'il faut préserver. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien bouger? Est-ce que ça veut dire que le statut, ça doit être le statu quo? Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut bouger les lignes. Je pense que les agents publics, ils sont attachés à leur statut, à leur fonction publique, mais que eux aussi, ils veulent pouvoir travailler différemment. Alors, avoir plus de mobilité, que leur travail soit
vous
récompensé.
Dites, il s'agit
c'est
de les récompenser. Mais tout de même, quand vous parlez de rémunération au mérite, de licenciement, le message qu'on comprend tout de même, c'est que le service public est devenu trop confortable, qu'il faut mettre un tour de vis.
Non, c'est pas ça le message que je veux faire passer. Moi, les objectifs que je porte à travers ce projet de réforme, j'ai ouvert hier une consultation avec les organisations syndicales. On va prendre le temps jusqu'à l'été de travailler sur différentes orientations. Moi, pour moi, il y a trois grands objectifs. Il y a un objectif de mobilité. Il faut qu'on puisse entrer plus facilement dans la fonction publique, qu'on puisse y évoluer, qu'on puisse être promu plus facilement dans la fonction publique et qu'on puisse en sortir plus facilement. Il faut que le travail paye mieux, qu'on puisse récompenser l'engagement individuel et collectif des agents. Et puis, il faut qu'on ait plus d'outils pour valoriser les métiers et les compétences. Et c'est vrai qu'on a un système aujourd'hui qui empêche parfois les agents publics de pouvoir bouger, évoluer, être promu. Moi, ce que je vois, quand j'échange, et je le fais toutes les semaines, tous les jours, avec des agents publics, c'est parfois des agents publics qui sont dans le 21e siècle, et puis un système qui, lui, est parfois resté bloqué dans les années 80. Et je pense qu'on a un très fort décalage entre un certain nombre de métiers et la façon dont on a de les récompenser, de les...
La modernisation, c'est quoi? C'est mettre dans le public des logiques du privé, même si vous en défendez, c'est ce que l'on comprend. Par exemple, sur ce que vous avez dit hier sur le licenciement, vous dites qu'il faut lever ce tabou. Beaucoup de réactions, beaucoup de condamnations d'ailleurs de ces propos ce
et
matin
beaucoup de
dans, la place, dans la classe politique et du côté des syndicats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il faut que les règles soient les mêmes dans le public que dans le privé, vu que les salariés du public sont trop protégés.
Parce que je pense qu'on confond tout sur ces sujets-là. Le statut de la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. Moi, je ne souhaite pas le remettre en cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la fonction publique, quand, par exemple, on supprime un service administratif, les agents publics, on leur confie une autre mission. Pour ainsi dire, il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique, et je ne souhaite pas changer ça. Je pense que c'est statutairement quelque chose qui est très important et qui distingue le public du privé. Mais le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946 quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail.
Le licenciement donc, pour insuffisance professionnelle existe déjà.
Il y a cet outil-là, il est très mal défini et il est surtout extrêmement peu appliqué. Je vais vous donner un chiffre. Il y a dans l'État 2,2 millions d'agents publics. L'année dernière, ce sont des chiffres qui sont à peu près les mêmes depuis 10 ans, il y a eu 13 13 licenciements pour insuffisance professionnelle.
Beaucoup plus de sanctions qui peuvent être sévères, jusqu'à 2 ans sans salaire de suspension.
Mais vous savez, il y a une autre modalité qui est la révocation pour faute. Il y en a eu 222. Voilà, donc insuffisance professionnelle et révocation pour faute, il y en a eu 235 en tout et pour tout. Et donc je pense qu'il faut être très décalé. Moi, j'entends toutes les belles âmes qui, au fond, s'offusquent qu'on puisse simplement dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, je pense que c'est toujours dans l'intérêt des agents publics de pouvoir dire les choses. Il faut être très décalé pour considérer que quand vous avez un collectif de travail de 100 personnes, qu'il y a une personne qui ne fait pas son travail et que ça n'a pas de conséquences, eh bien que ce n'est pas démotivant pour les 99 autres. J'ai l'impression de dire quelque chose qui est totalement banal, pardon, ce matin à votre micro. J'espère que c'est entendu et compris par ceux qui nous écoutent. Je pense que ça l'est sincèrement, à commencer par les agents publics, qui sont les premiers à me dire, au fond, qu'ils veulent un système qui soit juste, un système qui récompense mieux l'engagement, qui puisse justement récompenser le travail, et qui, au fond, soit capable de distinction. Je tire cette inspiration, au fond, de la Déclaration des droits de l'homme. C'est les vertus, c'est les talents. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans notre société et que le service public, la fonction publique, doit faire vivre.
Justement, si je vous écoute, il y en a un qui ne travaille pas et 99 autres qui travaillent. Ça veut dire que, puisqu'on parle de rémunération au mérite également dans ces concertations qui viennent de démarrer, qu'il faut augmenter les 99 autres ?
Oui, je pense qu'il faut que on puisse, c'est une expression qu'a utilisée le Premier ministre, désmicardiser la fonction publique. Et je le dis en regardant ce sujet-là en face. Moi, je suis, à votre micro ce matin, le ministre de la fonction publique qui a le plus augmenté les agents publics ces 2 dernières années. On a décidé les augmentations les plus importantes depuis le début du quinquennat, ou du septennat, pardon, le premier septennat de François Mitterrand.
Le salaire dans le public augmente toujours 2 fois moins vite dans le public que
importante.
Dans le privé.
Oh, ce sont des chiffres qui ne sont pas tout à fait exacts. Nous avons pris des décisions.
C'est combien ?
Je vais vous donner un chiffre très concret. En 2024, le salaire moyen des agents publics, il est 5,7% au-dessus du salaire de 2023. Donc ce sont des augmentations qui sont conséquentes pour faire face à une inflation qui est conséquente aussi, telle qu'on l'a vécue sur ces 2 dernières années. Donc c'est un sujet que je regarde totalement en face. Mais je pense qu'il faut un système de rémunération qui nous permette justement de mieux récompenser les collectifs de travail. Moi, je vais être très précis. Parfois, je rencontre des maires qui me disent « Moi, je voudrais verser une prime à l'ensemble de mes agents sur, justement, les objectifs qu'on définit ensemble, la qualité du service public. » Parce que n'oublions jamais que derrière la fonction publique, il y a le service public, il y a nos services publics du quotidien. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à le faire parce que les règles de rémunération ne me permettent pas de le faire. Yeah. Et donc, moi, ma responsabilité
si tout le monde travaille bien
la fonction publique, c'est justement de mettre en place ces outils-là pour permettre de mieux récompenser les métiers, l'engagement professionnel. Et j'ai jamais été pris à défaut, jamais, de critiquer les agents publics. Je considère au contraire...
Il ne s'agit pas de dire que ce sont eux qui sont responsables de la baisse de qualité.
Mais c'est le système qui entoure nos agents publics qui parfois empêche. Vous savez, il y a quelques mois, on a pris une loi qui était très importante pour revaloriser nos secrétaires de mairie. Voilà, je pense qu'il ne faut pas des grands discours théoriques, il faut prendre des exemples. Dans les communes de petite taille, il y a des secrétaires de mairie. C'est elles qui font tenir nos communes. Ben, on a cherché à revaloriser ce métier et on a eu besoin d'une loi pour pouvoir le faire, tout simplement pour casser les plafonds de verre que notre système de catégorie administrative met au-dessus de la tête de nos agents. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut justement avoir ce débat législatif, c'est la question des catégories qui est derrière, pour pouvoir évoluer plus facilement dans la fonction publique. Et je crois que si on veut répondre aujourd'hui au grand défi de l'attractivité, qui est un défi premier dans la fonction publique, qui est attirer des gens et fidéliser des agents, il faut qu'on puisse enlever un certain nombre de rigidités, que les agents publics puissent évoluer plus facilement.
On va parler des catégories, mais sur la rémunération au mérite toujours, comment concrètement on évalue ceux qui travaillent bien, ceux qui ne travaillent moins bien, sur quels critères ? Aujourd'hui, est-ce que les cadres de la fonction publique sont formés pour ça ? Est-ce que ça ne risque pas de créer des injustices ? Comment vous allez faire ?
Oui, j'entends ça de temps en temps en disant, au fond, on ne va pas savoir évaluer parce que c'est le service public. Moi, je crois que ça serait un incroyable aveu d'échec pour le service public que de dire ça. Bien entendu qu'on se fixe des objectifs qu'on doit aux Français. Je disais que le statut de la fonction publique, c'est aussi ça, le service au public, c'est l'adaptabilité
c'est
face aux grands défis.
L'égalité entre les agents, les syndicats donc, disent c'est la porte ouverte à l'arbitraire.
Je vais y revenir. Mais sur cette question qui est essentielle, vous avez bien raison de la mettre là, celle de l'évaluation. Moi, je crois que nous pouvons nous fixer des grands objectifs, par exemple en termes de qualité de service public. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils savent, ils attendent beaucoup de leur service public. Ils attendent que ça décroche au téléphone quand ils appellent un guichet, que la justice aille plus vite, qu'ils soient protégés, que la question des remplacements des professeurs soit mieux appréhendée, etc., etc. Et donc, considérer que parce qu'on est la fonction publique, on ne pourrait pas fixer d'objectifs, par exemple en termes de transition écologique. Moi, je suis extrêmement engagé sur la transformation écologique de l'État. J'imagine un système où chaque agent public du pays, chaque agent public, ait un objectif particulier en matière de transition écologique. Et ça peut se mesurer. L'année dernière, on a fait un plan de sobriété dans l'État. On a diminué de 10% notre consommation.
Donc, fixer des objectifs annuels et de gaz.
Et donc,
de résultats
considérer
sur la transition
que parler de résultats,
sur...
que parler de performance, que parler de mérite pour nos services publics, c'est la privatisation ou c'est la financiarisation de nos services publics, mais c'est ne pas voir la réalité en face. C'est un aveu d'échec formidable sur nos services publics. Donc moi, je dis que oui, on doit avoir une fonction publique qui est efficace. Et je dis même que c'est au cœur des enjeux de ce quinquennat. Que l'efficacité de l'action publique, c'est ça qui doit nous permettre de réduire cet écart parfois abyssal qu'il y a entre les Français et la politique, parce qu'au fond, on décide des choses qu'on n'arrive pas ensuite à appliquer. Et donc moi, je crois, parce que je suis ambitieux pour la fonction publique, pour nos services publics, qu'on a le droit de se fixer des résultats.
Puisque vous dites que votre objectif est l'attractivité des métiers de la fonction publique, est-ce que le point d'indice sera revalorisé, alors pas cette année, peut-être l'année prochaine, dans ce contexte d'économie, on a du mal à envisager.
Ça peut peut-être vous sembler un scoop ce matin, mais la dernière fois que j'ai revalorisé la rémunération indiciaire des agents, c'était en janvier 2024. Et pas il y a 8 mois, hein. C'était au début de cette année. Et donc, la conséquence très concrète, je voulais donner, c'est qu'en 2024, la rémunération moyenne des agents, elle a augmenté de 5,7% parce qu'on a pris des décisions, certaines qu'on a appliquées à partir de juillet dernier, certaines qu'on a appliquées
en octobre. Ça couvre l'inflation à peu près.
Ça couvre à peu près l'inflation sur ce qu'on a pu faire, avec peut-être une petite différence, c'est que les efforts de rémunération, j'ai fait le choix de les concentrer sur les premiers niveau de rémunération dans la fonction publique. Alors voilà, dès qu'on parle en milliards d'euros, je pense qu'on parle tout le monde. Moi, je peux vous donner un exemple très concret. Un agent adjoint administratif qui est un agent de guichet, donc parmi les plus faibles niveaux de rémunération dans la fonction publique, entre 2022 et 2024, sur les deux dernières années, années d'inflation forte, il gagne 240 euros net par mois de plus en 2024 par rapport à 2022.
Encore une fois, il y a eu beaucoup une inflation importante.
Oui, un gardien de la paix, c'est 230 euros.
Et l'année
un professeur
prochaine,
des écoles, c'est 330 euros.
Augmentation
net
générale
par
l'année prochaine.
D'augmentation.
C'est envisageable.
Mais j'ai
il
fait
faut
une
trouver
proposition.
50 milliards d'économies
j'ai fait une
dans
proposition,
les prochaines années.
Là aussi, inédite aux organisations syndicales. C'est qu'on mette en place une négociation salariale annuelle dans la fonction publique. Et j'ai fait la proposition qu'on puisse la mettre en place dès maintenant, sans attendre. On a, avec les syndicats, parfois, on peut évidemment se fâcher sur certains sujets, mais convenu d'un agenda social où la question salariale était dans l'agenda social. Et donc nous allons nous retrouver pour mettre en place cette négociation salariale annuelle.
L'autre pilier de la réforme, et je l'ai dit, il rebat totalement les cartes de l'organisation des métiers, des carrières, c'est la question des catégories. Je résume, catégorie A, les directeurs et les cadres sup, en gros. Catégorie B, les postes d'encadrement intermédiaire. Et catégorie C, ce qu'on appelle les postes d'exécution. Vous voulez les supprimer ?
Moi, je crois que ce système de catégories, c'est le débat que j'ai ouvert avec des organisations syndicales, avec l'ensemble des employeurs de la fonction publique. C'est un système aujourd'hui qui bloque beaucoup les choses. C'est un système qui, je l'ai dit, met des plafonds de verre au-dessus de la tête des agents publics. Vous avez au fond une étiquette qui vous est collée sur le front, qui est liée au diplôme que vous aviez ou que vous avez eu parfois il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ben aujourd'hui, c'est très très difficile de décoller cette étiquette. Je prenais l'exemple des secrétaires de mairie. Deux tiers d'entre elles, je dis elles parce que à 94% ce sont des femmes, sont catégorisées. Et ben, pour revaloriser leur métier qu'on considère indispensable à très fort niveau de responsabilité, on a eu besoin d'une loi spécifique pour leur permettre de changer de catégorie. C'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas complètement. Et je dis qu'on a un système qui génère un sentiment de déconsidération par rapport à bon nombre de métiers. On l'a imaginé au fond dans l'après-guerre, à un moment donné où le niveau de diplôme, vous aviez 10% d'une classe d'âge qui avait le bac, ben ça rangeait très bien les métiers dans la société. Mais aujourd'hui, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, la valorisation qu'on peut faire des métiers, métiers du soin, des métiers du lien, des métiers du numérique, des métiers des filières techniques, ben elle est très différente. Et notre système dans la fonction publique, il permet pas très bien de prendre en compte ces différences-là. Je prends un deuxième exemple très concret. Vous avez aujourd'hui des énergéticiens. On a besoin d'énergéticiens dans la fonction publique. C'est des métiers, c'est très dur à recruter. C'est des gens qui ont un CAP. Ah, ils sont tous ce que vous voulez de catégorie C. Mais on arrive à des situations aussi absurdes. Et tous ceux qui gèrent une collectivité, par exemple, vont savoir que ce que je dis est vrai. Où on dit à nos énergéticiens, ben en fait, au bout de 10 ans, on ne peut plus faire grand-chose pour vous en termes de marge de manœuvre. Donc vous allez démissionner de votre poste de titulaire et on va vous réembaucher le lendemain en agent contractuel. C'est peut-être qu'il y a un truc qui ne tourne pas complètement rond. Et donc moi, quand je ne sais plus expliquer un système, je propose de le changer. C'est ça que j'ai mis sur la table dans le dialogue social.
Stanislas Guérini, énormément de questions des auditeurs de France Inter au standard. Voici celle de Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour France Inter, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Je suis le fondateur du site Cap Public qui existe depuis plus de 20 ans, qui est un site d'entraide entre les candidats à tous les concours de la fonction publique. Et la question que peuvent se poser les candidats aujourd'hui, c'est comment le recrutement va évoluer avec votre réforme. Est-ce que ça va être impacté? Est-ce que le concours va rester la voie royale ou est-ce que d'autres voies vont être qui existent déjà vont se développer à côté? Merci.
Merci Philippe. Ça va avec cette question de la réorganisation des catégories.
C'est une question qui est centrale, qui est posée là. Comment on entre plus facilement dans la fonction publique? Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 70 000 postes qui sont ouverts au recrutement dans la fonction publique. Parfois des agents contractuels, parfois des postes sur concours, des agents titulaires. Moi, je crois qu'il faut, pour un certain nombre de postes, garder des concours. Mais il faut pouvoir les moderniser, d'abord. On a bien souvent des concours qui sont un peu déconnectés de la réalité du métier ensuite. Et donc je pense qu'il faut qu'on puisse professionnaliser un certain nombre de concours. Ensuite, il faut qu'on puisse uniformiser les modes de recrutement dans la fonction publique. Parfois, c'est absurde. Vous faites le même métier, mais en fonction du versant de la fonction publique que vous allez rejoindre, les modalités de recrutement sont différentes. Mmh. Ça n'a aucun sens. Vous avez parfois, comme conséquence, des hôpitaux qui sont capables de faire des recrutements sur titre, pardon du gros mot un peu techno, mais en gros, un recrutement simplifié par rapport à un concours, là où pour le même métier dans la collectivité, on recrute différemment.
Le problème,
ça n'a pas de sens. Donc il faut uniformiser.
Il y a de moins en moins de candidats
au
concours.
Et ensuite,
il manque des 70 000 fonctionnaires à peu près aujourd'hui.
Oui, mais il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi? Et ensuite, moi je veux qu'on puisse faciliter l'accès à la fonction publique. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, on a des apprentis. Ça n'existait pas, l'apprentissage dans la fonction publique, il y a quelques années. Ben, on a fait cette révolution-là. Il y a 30 000 jeunes apprentis dans la fonction publique. Ils passent 2 ans, parfois, dans un service administratif, dans une ville, par exemple. Mmh. Le maire, le directeur général des services, veut le recruter, veut le titulariser. Eh bien, on lui dit, ah non, vous allez repasser 1 an de préparation pour passer un concours alors que ça fait 2 ans que vous êtes là. Bah, résultat des courses, on perd nos apprentis. Donc dans le projet de réforme que je souhaite porter, je souhaite porter une mesure très simple, donner la possibilité de titulariser les apprentis à la fin de leur contrat d'apprentissage. On va ouvrir les portes et les fenêtres de la fonction publique et je crois que c'est salutaire parce qu'on en a besoin.
Une autre question pour vous de Guillaume Stanislas Guérini. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour France Inter, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
J'ai une question à vous poser. En effet, vous parlez de mérite. Vous avez parlé également de critères sur le mérite, mais vous parlez de critères finalement qui sont généraux sur un service. Mais pour une personne, je parle par exemple d'une greffière, d'un professeur, comment on va pouvoir déterminer si cette personne a vraiment été méritante, si elle a bien fait son travail, en fait, quels seront vraiment les critères qui seront individuels pour éviter que le service puisse éventuellement être une inconvénient pour la personne individuelle, puisque un service qui fonctionnerait mal pour un sous-effectif, par exemple sur les tribunaux, pourrait gréver finalement la performance de la personne individuelle et gréver éventuellement son augmentation de salaire. Et aussi, j'ai une question qui est complémentaire. Si on considère qu'en effet nos agents sont des personnes qui travaillent très bien, J'espère que vous avez éventuellement prévu un budget pour cette réforme qui pourrait coûter très cher à l'État.
Alors, merci Guillaume, je vous posais la question tout à l'heure effectivement sur les critères. On entend dans la question de Guillaume que c'est pas très clair effectivement. Est-ce que un service public qui n'a pas de moyens, qui aujourd'hui a du mal à fonctionner, donc dans lequel des agents ont du mal à travailler, peut les pénaliser tout simplement ?
Moi je pense qu'il faut avoir deux types de critères. On peut avoir des critères individuels, et je considère que c'est pas au ministre de la fonction publique, tout seul dans son coin, de définir les critères de chaque agent public. Évidemment que la bonne méthode pour faire ça, c'est de le renvoyer justement au dialogue social de proximité. C'est qu'on puisse fixer, métier par métier, filière par filière, un certain nombre de critères qui concernent le métier, le quotidien des agents. Il faut qu'on ait une deuxième appréciation du mérite, au fond, qui est beaucoup plus collective. Moi, je crois que la transformation du travail, c'est de considérer que la bonne unité de travail, ce sont aussi des collectifs de travail. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. C'est exactement ça, d'abord, qu'on va discuter, qu'ensuite, qu'on va renvoyer au dialogue social, pour pouvoir apprécier à la fois le mérite individuellement et collectivement. Et là encore, je crois que ça sera un aveu d'échec, au fond, pour notre fonction publique, de considérer qu'on ne peut pas se fixer des objectifs ensemble et essayer de les atteindre. Vous voyez, dans des entreprises, il y a des plans d'intéressement où on se fixe des objectifs pour pouvoir les atteindre. Ben moi, je vois beaucoup d'agents publics qui me disent, au fond, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas la même chose? Parce qu'on est capable, justement, de se poser la question de comment est-ce qu'on améliore
question
le fonctionnement d'un service, par exemple, et on peut le faire tous ensemble.
La deuxième question de Guillaume, c'était sur les fonds. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent, tout simplement, pour
c'est là où je fais un lien.
Fonctionnaires. On a beaucoup de questions d'auditeurs là-dessus. Est-ce que vous êtes prêt à sortir de carnet de chèques? Est-ce que vous pouvez?
Mais c'est là où je fais un lien, justement, ce que je disais tout à l'heure sur une réforme de la fonction publique, c'est-à-dire, au fond, les outils, les éléments de réforme structurelle, et puis la question des négociations salariales. La question des négociations salariales, justement, si on met tous les outils sur la table, rémunération indiciaire, rémunération indemnitaire, outils de rémunération au mérite individuel et collectif, ben on peut, justement, nourrir cette discussion-là, qui doit se mener, je ne veux pas la préempter, avec les organisations syndicales que je suis prêt à mener pour justement voir comment on alimente notre système de rémunération. Mais, pardon de le dire, mais si tout était parfait, on n'aurait pas de difficulté comme on a dans la fonction publique en ayant deux fois moins de candidats au concours en 15 ans. Et donc moi, c'est ça que je souhaite remettre en cause, justement, pour se redonner une politique de rémunération qui soit beaucoup plus dynamique.
Justement, très très rapidement, Stanislas Guérini, vous avez lancé la concertation hier, vous parlez de dialogue social. Les syndicats, eux, regrettent qu'il n'y ait que deux réunions, 14 mai et 20 juin, en plus de celle d'hier. Est-ce que ça veut dire que tout est écrit ?
Non, bien sûr que non. Il n'y aura pas que deux réunions, je vous rassure.
Avec tout le monde.
Des réunions en format bilatéral, où on voit chaque organisation syndicale, on voit toutes les associations d'élus, on voit tous les employeurs publics, on voit toutes les parties prenantes. Évidemment, ouvert. Il y a deux rendez-vous dans un format totalement plénier pour la fonction publique que j'ai d'ores et déjà proposé, mais j'ai dit aux syndicats que s'il fallait qu'on densifie encore ce rythme de travail pour construire une réforme de la fonction publique qui est notre bien commun et donc qui doit se faire à découvert d'une certaine façon, j'y étais évidemment prêt. C'est ma méthode depuis maintenant bientôt 2 ans. Le dialogue social, le respect, et je considère que tout mettre sur la table, c'est aussi respectueux pour qu'on puisse avancer pour nos services publics.
Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, merci à vous.
Merci à vous.